Amélie Mélomane.
Là, il faut me donner le maximum.
L'émission de musique classique de Divergence FM.
Vous commencez beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Voilà.
Un orchestre est un monde. Un monde où chaque personne vient avec son propre instrument, son propre talent, pour jouer ensemble le temps d'un concert avec, pour seul idéal, de trouver l'unisson, d'en exprimer la mesure, d'atteindre l'harmonie. Seulement le temps d'un concert.
Plus rien.
Chers auditeurs, vous êtes peut-être aussi des lecteurs et pas seulement des mélomanes, oh là là, décidément. Vous savez sans doute que la Suisse est à l'honneur à Montpellier en ce moment. Alors, Mélie Mélomane se devait de vous présenter de la musique suisse. Ah, mais des compositeurs suisses, vous allez me dire, on n'en connaît pas. Ah, il n'y en a pas beaucoup. Attendez, vous allez voir, il y en a un très connu. Un compositeur suisse, et même vaudois, on pourrait dire. Un compositeur vaudois, vous voyez le canton de Vaud, ce grand canton de la Suisse, sur les bords du lac Léman. Ah, mais il est un petit peu particulier, ce compositeur. Allez, il n'est pas né en Suisse, non. Il n'est pas mort en Suisse, non plus, non. Il a très peu vécu en Suisse. Eh oui, alors, qu'est-ce qu'il a de Suisse? Et pourtant... C'est un compositeur vaudois d'adoption. Où est-ce qu'il est né? Il est né à Saint-Pétersbourg, en Russie. Où est-ce qu'il est mort? À Venise, en Italie. Et il a beaucoup vécu à Paris et aux États-Unis. Son nom, Igor Stravinsky. C'est pas un Suisse, c'est un Russe, vont dire certains. Sauf que Igor Stravinsky a vécu en Suisse pendant la période de la Première Guerre mondiale, qu'il y a développé une très grande amitié avec un musicien et un auteur suisse. Et ça, c'est pas rien. Cet auteur suisse, c'est peut-être le numéro un de la littérature suisse romande à l'époque, Charles Ferdinand Ramu. Le chef, un très grand chef d'orchestre, Ernest Ansermet. Et ces trois-là ont fait quelque chose que l'orchestre de Montpellier va donner une sorte de postface à la comédie du livre suisse, qui est l'histoire du soldat. Alors, comment cela commence? Cela commence en 1910, pas l'histoire du soldat, mais les aventures suisses de Stravinsky. Alors, ça commence en 1910, Stravinsky, qu'est-ce qu'il fait à l'époque? Il est à Paris et il vient de composer l'Oiseau de feu qui a eu un grand succès. Et puis, il va aller passer, en l'été 1910, des vacances en Suisse, à côté de Montreux, dans un village qui s'appelle Clarins. Il va louer une maison à un monsieur qui est assez musicien et qui l'admire, qui a entendu parler du sac de l'Oiseau de feu, pardon, qui est Ernest Ansermet. Ernest Ansermet, qui est lui-même chef d'orchestre à Montreux à l'époque. Et puis, Ansermet va faire rencontrer Ramu et Stravinsky. Et Stravinsky va écrire sur Ramu, Ramu va écrire sur Stravinsky. Ça va être une sérieuse amitié au point que Ramu considérera Stravinsky comme un musicien vaudois. Alors, une collaboration très fructueuse qui commence avec des petites pièces en 1914. Ça va être des petites chansons, alors pribaoutki en russe, des choses amusantes. Chansons plaisantes, on a traduit ça. Ramu a traduit le texte qui était écrit en russe, il a traduit ça mot à mot, et c'était pas rien. Puis ils ont continué ce travail-là, et ça a été Renard.
Thank you.
Renard, le début de Renard. Alors là, il n'y a pas le chant, mais c'est chanter Renard, c'est chanter sur un texte russe traduit par Charles-Ferdinand Ramu. Sacré travail. Tenez, quelques propos de Ramu dans ses souvenirs sur Igor Stravinsky qui racontent le travail de fou que Stravinsky lui a demandé pour traduire ça. Nous nous retrouvions presque chaque jour dans la chambre bleue d'où on dominait le jardin. Nous étions parmi les tambours, les timbales, les grosses caisses, toute espèce d'instrument de choc ou de percussion, qui est le terme officiel, auquel le cymbalum dont il a été question plus haut était récemment venu s'ajouter. Je me sentais musicien parmi ces instruments de musique. J'entends ces instruments de musique-là qui n'ont rien d'ésotérique comme le violoncelle ou même le piano. J'entends que rien ne m'empêchait de taper dessus. Tout ce qui est rythme ou volume de son, encore ce qui est timbre, m'appartient de droit, parce que le rythme, le son, le timbre ne sont pas seulement de la musique, ils sont au commencement de la musique, ils sont au commencement de tous les arts. Stravinsky me lisait le texte russe vers après vers, prenant soin de compter chaque fois les syllabes de chaque vers. Puis on faisait la traduction, c'est-à-dire que Stravinsky me traduisait le texte mot à mot. C'était un mot à mot tellement littéral qu'il était souvent tout à fait incompréhensible, mais avec des trouvailles d'images non logiques, des rencontres de sons d'une fraîcheur d'autant plus grande que tout sens logique en était absent. Je soupçonne d'ailleurs, entre parenthèses, que même dans le texte russe, cette espèce de sens n'était guère représentée. Je notais mon mot à mot. Ensuite venait la question des longueurs, celle des longues et des brèves. La question aussi des voyelles, telle note étant écrite pour un I, telle pour un A, telle pour un O. Et enfin, par-dessus toutes les autres, la fameuse et insoluble question de l'accent tonique et de sa coïncidence ou de sa non-coïncidence avec l'accent musical. Voyez le casse-tête auquel s'est livré Ramu pour coller au texte de Stravinsky pour Renard. Ça, c'est en 1914. Et puis, 1914-16, ça n'a pas été créé tout de suite, mais ça a été composé en 1914-16. Et puis, un petit peu plus tard, ça a été l'histoire du soldat. Alors, c'est toute une histoire, l'histoire du soldat, si je puis dire. Et je crois que, même si c'est un petit peu long, je vais vous restituer ce que Stravinsky lui-même en racontait. Mais comme c'est une histoire que Stravinsky raconte en musique, eh bien, je vais aussi vous la raconter en musique. Cette époque, la fin de l'année 1917, fut une des plus dures de ma vie. Profondément abattu par les deuils successifs dont j'avais été frappé, je me trouvais en outre dans une situation matérielle des plus difficiles. La révolution communiste qui venait de triompher en Russie me priva des dernières ressources qui me parvenaient encore de temps en temps de mon pays. Je me trouvais, pour ainsi dire, vis-à-vis de rien, en pays étranger et au beau milieu de la guerre. Il fallait coûte que coûte chercher à assurer une existence supportable à ma famille. Mon unique consolation était de voir que je n'étais pas seul à souffrir des circonstances. Mes amis comme Ramu, Ansermet et bien d'autres étaient tout aussi éprouvés que moi. Nous nous réunissions souvent et nous cherchions fébrilement une issue à cette inquiétante situation. C'est ainsi que nous vint l'idée, à Ramu et à moi, de créer avec le moins de frais possible une espèce de petit théâtre ambulant qu'on pourrait facilement transporter d'un endroit à un autre et présenter même dans de toutes petites localités. Et pour cela, il fallait avoir des fonds, et il nous en manquait totalement. Nous conférâmes sur ce sujet avec Ansermet, qui devait devenir le chef d'orchestre de cette folle entreprise, et Aubert Genois, qui devait faire les décors et les costumes. Nous élaborions minutieusement tous les détails de notre projet, jusqu'à l'itinéraire de la tournée, et tout cela, les poches vides. Finalement, nous eûmes la grande chance de tomber sur quelqu'un qui non seulement nous promit de nous réunir les sommes dont nous avions besoin, mais qui prit à cœur notre projet et nous témoigna une chaleureuse et encourante sympathie. Le sujet de notre pièce m'était fourni par les contrus du célèbre recueil d'Afanassiev, pour lesquels j'étais très emballé à cette époque. Je les fis connaître à Ramu, qui, très sensible à la muse populaire russe, partagea tout de suite mon engouement. Pour le but théâtral que nous avions en vue, notre attention fut surtout attirée par le cycle de légendes ayant trait aux aventures du soldat déserteur et du diable qui, par ses artifices, arrive infailliblement à lui ravir son âme. Ce cycle avait été écrit d'après des histoires populaires à la cruelle époque du recrutement forcé sous le régime de Nicolas Ier. Bien que ces contes aient un caractère spécifiquement russe en ce qui concerne leur ambiance, les situations qu'ils dépeignent, les sentiments qui y sont exprimés et la morale qui s'en dégage sont d'une nature à tel point humaine et générale qu'ils peuvent se rapporter à toutes les nations. C'est précisément ce côté essentiellement humain qui nous tenta, Ramu et moi, dans cette tragique histoire du soldat devenant fatalement la proie du diable. Mais il nous fallait tout le temps tenir compte des modestes moyens d'exécution dont nous pouvions disposer. Aussi ne me faisais-je pas d'illusions sur le fait que pour la réalisation musicale, je serais obligé de me contenter d'un nombre très réduit de musiciens. Je ne voyais donc pas d'autre solution que de m'arrêter un groupe d'instruments, un ensemble où puissent figurer les types les plus représentatifs, l'aigu et le grave des différentes familles instrumentales. Pour les archers, le violon et la contrebasse, et le basson. Pour les cuivres, la trompette et le trombone. Enfin, la percussion manipulée par un seul musicien, le tout, bien entendu, sous la direction d'un chef. Autre chose encore me rendait cette idée particulièrement attrayante, c'est l'intérêt que présente pour le spectateur la visibilité de ces instrumentistes ayant chacun à jouer son rôle concertant. Car j'ai toujours eu en horreur d'écouter la musique les yeux fermés, sans une part active de l'œil. La vue du geste et du mouvement des différentes parties du corps qui la produisent est une nécessité essentielle pour la saisir dans toute son ampleur. Comme je l'ai dit plus haut, les représentations du soldat ne devaient pas, dans notre idée, se borner à un seul spectacle. Nos projets étaient plus vastes. Avec notre théâtre ambulant, nous voulions rouler plus loin en Suisse. Hélas, nous n'avions pas compté avec la grippe espagnole qui alors sévissait dans toute l'Europe. Elle nous épargna pas. L'un après l'autre, nous en fûmes tous atteints, nous, nos familles, jusqu'aux agents qui devaient s'occuper de notre tournée. Ainsi, nos belles perspectives s'évanouirent. Voilà, l'histoire de la création, de la composition et de la création de l'histoire du soldat, hein, l'histoire d'une histoire, racontée par Stravinsky lui-même. Que dire de plus ? Eh bien, découvrir cette histoire, c'est peut-être la meilleure chose que je puisse vous proposer. Et puis, vous irez entendre la suite avec l'orchestre de Montpellier, c'est ces jours-ci. Alors attendez, j'ouvre mon programme de l'orchestre et je retrouve les dates exactes. Voilà, Ce sera donné le samedi 25 mai à 17h et le dimanche 26 à 15h. Ce sera sous la direction de Magnus Freklund. Alors, eh bien, pour vous donner envie, tout simplement, le début de l'histoire du soldat. Avec une version, je suis allé le chercher. Pour vous, spécialement, je suis allé repiquer un vinyle parce que la version que je vais vous proposer, à ma connaissance, n'a jamais été rééditée en CD. Et pourtant, Pierre Boulez dirige l'ensemble intercontemporain et les différents personnages, le soldat Patrice Chéreau, le récitant Roger Planchon, le diable Antoine Vitesse. Un plateau d'or pour une histoire du soldat signée Stravinsky, compositeur vaudois, et Ramu, écrivain traducteur du russe.
Entre danger de Neuzy, un soldat qui rentre chez lui. Qu'il a marche depuis longtemps déjà.
C'est un joli endroit, mais le fichu métier qu'on a, toujours en route, jamais le sou. C'est ça, mes affaires sont dessus-dessous, mon Saint-Joseph qui est perdu. C'est une médaille en argent doré avec Saint-Joseph, son patron, dessus. Non, tant mieux, va toujours fouillant, sors des papiers avec des choses dedans, sors des cartouches, sors un miroir, tout juste si on peut s'y voir. Mais le portrait, où est-ce qu'il est ? Un portrait de sa bonne amie qui lui a donné son portrait. Il l'a retrouvé. Il va plus profond, il sort un petit violon.
On voit que c'est du bon marché. Il faut tout le temps l'accorder.
Donnez-moi votre violon.
Non.
Vendez-le-moi.
Non.
Changez-le-moi contre ce livre.
Je ne sais pas lire.
Pas besoin de savoir lire. C'est un livre, je vais vous dire. C'est un livre, un coffre-fort. On n'a qu'à l'ouvrir, on tire dehors des titres, des billets, de l'or.
Faudrait me le montrer d'abord.
Je suis parfaitement d'accord.
À terme, à vue, cours d'échange, pas moyen d'y rien comprendre.
Je lis, c'est vrai. Mais je ne comprends pas.
Allez-y toujours, ça viendra.
Et puis aussi, monsieur, si ce livre vaut tant d'argent, mon violon, à moi, il m'a coûté 10 francs.
Raison de plus.
Eh bien, alors, c'est entendu.
À terme, à vue, cours d'échange, bourse du samedi 31. Quel jour est-ce qu'on est? On est un mercredi, le mercredi 28. Tiens, c'est un livre qui est en avance. C'est un livre qui dit les choses avant le temps. Drôle, ça.
Dis donc, tu vas venir chez moi.
Pourquoi faire?
Le violon, là, ça ne marche pas. Il te faut venir me montrer.
Oh, j'ai seulement 15 jours de congé.
Je te prêterai ma voiture, tu iras plus vite qu'à pied.
Et ma mère qui compte sur moi?
Ce n'est pas la première fois.
Et ma fiancée qui m'attend aussi.
Tu lui revaudras ça dans quelques jours d'ici.
Où est-ce que vous habitez?
Logé, soigné, nourri, blanchi, désaltéré. Ma voiture pour te ramener, 2 ou 3 jours, un tout petit détour. Après quoi, riche pour toujours.
Qu'est-ce qu'on aura à manger?
De la viande 3 fois par jour.
Et à boire?
Du vin bouché.
Et on aura de quoi fumer?
Des cigares de la Havane à bague en papier doré.
Eh bien, c'est comme vous voudrez. C'est comme vous voudrez, je vous dis. Et a suivi le vieux chez lui, qui se trouve avoir dit l'exacte vérité. C'est-à-dire que Joseph a eu à boire et à manger, et a été soigné comme il n'avait jamais été, et montra au vieux à jouer. Et le livre lui fut montré. 2 jours, valant bien le détour. Puis vint ce matin du 3e jour. Ce matin-là, le vieux entra. Joseph vit le vieux qui entrait. Le vieux lui a dit, « Es-tu prêt? Mais d'abord, as-tu bien dormi? » Et Joseph qui répond que oui. « Et est-ce qu'on a tenu ce qu'on t'avait promis? » Et Joseph qui répond que oui. « Alors, tu es content? » « Oh oui! » Allons-y! Il monte dans la voiture! La voiture partit! Seulement, Joseph, tout à coup, s'est accroché des 2 mains au coussin! Il ne sait pas ce qui arrive! Tiens-toi, dit le vieux, tiens-toi bien! Attention, dit le vieux, c'est que mes chevaux vont bon train! Joseph, qui voudrait se lever, qui voudrait sauter? Pas moyen! La voiture est montée en l'air! Elle prend le ciel en travers. Es-tu content? Es-tu toujours content? Elle glisse en l'air, au-dessus des champs. Combien de temps? Il n'y a plus de temps. Puis, de nouveau, c'est comme avant. Danger de Neuzy, un soldat entre au pays. Thank you.
marché, a beaucoup marché.
A marché, a beaucoup marché, et vous allez marcher vous aussi pour aller découvrir la suite de cette histoire du soldat de Ramu et Stravinsky, ou de Stravinsky et Ramu. Là, la version que vous avez entendue, c'était Pierre Boulez avec l'ensemble intercontemporain, et puis les voix de Patrice Chéreau, de Roger Planchon, d'Antoine Vitesse, trois grands noms du théâtre français, un enregistrement qui date de 1980. Alors à Montpellier, je vous rappelle, ce sera donné le 25 mai à 17h et le 26 mai à 15h. Le chef d'orchestre sera Magnus Fricklund, avec un petit ensemble, bien entendu. Il y aura juste un récitant qui fait tous les rôles. Vous aurez un point de comparaison, mais non, pas besoin de comparaison. Laissez-vous emporter par l'histoire du soldat. Et à une prochaine. Merci Lucille pour la technique. Méli Mélomane.
Là, il faut me donner le maximum.
L'émission de musique classique de Divergence FM.
Vous commencez beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Voilà. Pas encore. Maintenant.